Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, jeudi le 10 janvier 2019, nous allons vous présenter des programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire aujourd'hui, Bon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers amis, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Diplomatie étrangère indonésienne 2019 sera consacrée à l'édition du Conseil de sécurité de l'ONU. La ministre indonésienne des Affaires étrangères affirme la neutralité des diplomates indonésiens en 2019. Le président Joko Widodo a inauguré Doni Monardo à la tête de la BNPB. Le vice-président soutient le programme humanitaire Insania en Indonésie. Attirer les touristes néerlandais pour passer les vacances d'été en Indonésie. Jakarta doit développer le tourisme halal intensivement. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a déclaré mercredi à Jakarta qu'en 2019 serait une année chargée pour la diplomatie étrangère indonésienne. L'Indonésie continuera de travailler dur dans le secteur prioritaire de la politique étrangère. L'attention de la politique étrangère de l'Indonésie sera également consacrée à l'addition de l'Indonésie au Conseil de sécurité des Nations Unies. La ministre Retno a déclaré que l'équipe du Conseil de sécurité des Nations Unies auprès du représentant permanent de la République d'Indonésie à New York avait été renforcée depuis octobre 2018. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Indonésie encouragerait diverses questions liées au maintien de la paix et à la synergie entre les organisations régionales et les Nations Unies. L'Indonésie exercera la présidence du Conseil de sécurité en mai 2019 et au milieu 2020. Les questions liées au maintien de la paix, l'éradication du terrorisme, les synergies entre les organisations régionales et les Nations Unies et la Palestine, entre autres, seront la priorité de l'Indonésie. La ministre Retno Marsudi a également déclaré que l'Indonésie considérait que le rôle de la région dans le soutien de la paix mondiale devait être renforcé. L'Indonésie continuera à renforcer l'architecture de la région Indo-Pacifique. En 2019, l'Indonésie a également lancé plusieurs initiatives, entre autres pour renforcer le dialogue entre l'Indonésie et diverses organisations régionales dans le monde. L'Indonésie accordera également la priorité au rôle des femmes dans l'humanité et la paix, y compris pendant l'Indonésie dans le Conseil de sécurité. Dans l'année politique 2019, la ministre des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a souligné mercredi à Jakarta la neutralité des diplomates indonésiens. Tous les diplomates indonésiens doivent être neutres et continuent à être professionnels au travail. Elle a également demandé à tous les diplomates indonésiens au ministère des Affaires étrangères de continuer au succès les élections générales 2019 qui se dérouleront en avril.
Memasuki tahun politik, saya ingin tegaskan bahwa seluruh diplomat.
Dans l'année politique 2019, je vais souligner que tous les diplomates indonésiens doivent être neutres et continuer à faire preuve de professionnalisme dans leur travail. Je demande à tous les représentants indonésiens à l'étranger de contribuer au succès de l'élection de 2019. Toutes les voix du peuple indonésien, y compris des citoyens indonésiens à l'étranger, sont utiles pour déterminer l'avenir de l'Indonésie. Madame Retno LP Marsudi a également remercié tous les diplomates et le personnel du centre de représentants, notamment ceux dans la présentation, qui sont vulnérables et dangereux pour son dévouement et son travail infatigable. L'appréciation a également été transmise au Parlement indonésien, notamment la Commission 1 pour la coopération de soutenir la diplomatie étrangère indonésienne. Selon lui, la diplomatie est inclusive, de sorte qu'elle n'est plus dominée par le travail des diplomates, mais également par divers autres acteurs. Le président indonésien Joko Widodo a inauguré le lieutenant général Doni Monardo en tant que nouveau chef du Conseil national de prévention des catastrophes, remplaçant du commandeur retraite Willem Rampangile au palais de l'État mercredi. Le lieutenant général Monardo, ancien secrétaire général du Conseil national de la résilience, a été nommé au poste de chef de Conseil national de prévention des catastrophes en vertu du décret présidentiel numéro 5 l'année 2019, en vertu du décret présidentiel qui est entré en vigueur le 9 janvier 2019. Monardo a des droits financiers et administratifs égaux à ceux des ministres. Après avoir lu le décret, le chef de l'État a intronisé Monardo, remplaçant Rampangile à la tête de la BNPB. Après la cérémonie d'assermentation, le président Jokowi, le vice-président Yusuf Kalla et d'autres invités ont félicité Monardo, l'ancien commandant du détachement de sécurité présidentielle sous le gouvernement du président Susilo Bambang Yudhoyono pour sa nomination à nouveau chef. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président de la République d'Indonésie, Yusuf Kalla, a reçu la visite du président général de l'organisation qatarienne des fonds humanitaires ou Insania, Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani mardi. Lors de la réunion, le vice-président a exprimé sa gratitude pour la solidarité de Qatar liée au récent tsunami qui a frappé Banten et Lampung récemment. Le vice-président Yusuf Kalla a exprimé sa gratitude pour l'assistance de Qatar ainsi que pour les autres programmes humanitaires menés en Indonésie. Le vice-président a également expliqué que le Conseil indonésien des mosquées avait le projet de construire 100 mosquées à Lombok et Palu avec des bâtiments semi-permanents. En réponse à cette question, Abdul Aziz Al Thani a révélé que Insania, qu'il dirigeait, avait un programme de travail lié au renforcement des capacités des imams. Insania est le premier organisme humanitaire des Nations Unies engagé dans l'humanité pour les pays islamiques. Actuellement, Insania a collaboré avec des pays islamiques tels que la Malaisie, le Koweït et la Turquie. L'Indonésie s'efforce à attirer les touristes néerlandais qui souhaitent passer leurs vacances en été en organisant la plus grande exposition touristique aux Pays-Bas, Vakantieber, qui se tenait à Utrecht du 9 au 13 janvier 2019. C'est ce qu'a affirmé l'assistance du marketing régional 4 Europe du ministère du Commerce Agustini Rahayu à l'agence de presse indonésienne Antara de Londres mercredi. Selon elle, les Pays-Bas sont l'un des 5 principaux marchés d'Europe qui pourraient contribuer au nombre de touristes étrangers de 310 000 personnes sur une cible de 20 millions de personnes en 2019. Pour maintenir les relations avec l'industrie touristique indonésienne et néerlandaise, le ministère du Commerce facilite les réunions amicales, le réseau auquel participeront les partenaires commerciaux du ministère du Commerce et les co-exposants regroupés dans le pavillon indonésien. La facilitation du renforcement des relations commerciales est utilisée comme une opportunité de transmettre des informations sur le processus de récupération des destinations touristiques touchées par des catastrophes naturelles comme Lombok. Jakarta doit développer le tourisme halal intensivement en tant que source de nouvelle croissance économique. Cela a été dit mardi par le chef de la Banque Indonesia, le représentant DKI Jakarta, M. Trisno Nugroho, à Jakarta. La déclaration a été prononcée dans le cadre du groupe de discussion thématique intitulé Synergy of Tourism Development à Jakarta, organisé par le Forum de tourisme de Jakarta. Selon lui, la part des principales composantes du produit intérieur brut régional de Jakarta, à savoir la consommation, les investissements et les exportations, a diminué. La baisse s'est également reflétée dans la part des trois principaux domaines d'activité. Il a déclaré que le tourisme était une nouvelle source d'économie pour Jakarta, ce qui correspond à la tendance de la contribution du tourisme qui devient plus grand pour obtenir des devises nationales. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Planter un million d'arbres n'est pas une simple cérémonie ». Tous les 10 janvier, la communauté mondiale, y compris l'Indonésie, célébrait la journée du million d'arbres. En Indonésie, le gouvernement, le secteur privé et diverses organisations participent à la célébration de cette journée. À ce jour-là, des arbres ont été plantés simultanément et en très grande quantité. La commémoration d'un million d'arbres sous forme de plantation d'arbres en très grande quantité est très important. Pourquoi faut-il le faire? Parce que le nombre d'arbres dans le monde, y compris en Indonésie, a diminué. Madame Siti Nurbaya, la ministre de l'Environnement et des Forêts, a révélé, d'après les résultats d'une enquête menée en 2013, qu'environ 24,3 millions d'hectares de forêts et de terres en Indonésie étaient dans un état critique. L'état critique de la forêt est dû à de nombreux facteurs, entre autres les incendies de forêt, l'abattage illégal, l'industrie papetière, ouvrir de nouvelles terres et d'autres facteurs. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a fait divers efforts pour améliorer l'état critique de la forêt. Entre autres, la construction de forêts polyvalentes, de forêts urbaines, la réhabilitation de mangroves et la réalisation du mouvement de plantation d'arbres lancé par le président Joko Widodo le 2 août 2017, impliquant des étudiants, des éclaireurs, des TNI, la police nationale et d'autres organisations communautaires. Selon Madame Siti Nurbaya, de 2014 jusqu'à 2016, la plantation d'arbres a été réalisée sur une superficie de 4,20 millions d'hectares. Cette quantité réduit-elle la superficie de terre critique? Est-ce que les arbres plantés vivent et grandissent jusqu'à maintenant? Il y a 2 ans, le président Joko Widodo a exprimé son inquiétude vis-à-vis de l'activité de plantation d'arbres visant à commémorer un million d'arbres en tant qu'activité cérémoniale. La préoccupation de Joko Widodo est très appropriée parce que jusqu'à présent, de nombreux arbres ont été plantés, mais il n'y a pas de suite. Les coûts importants engagés ne sont pas comparables aux résultats. Bien sûr, notre espoir commun est la commémoration de la journée du million d'arbres du 10 janvier devient un moment de conscience que planter ne suffit pas. La continuation devient importante, à savoir maintenir les grains plantés et s'assurer que l'arbre peut pousser. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 10 janvier 1929, la bande dessinée légendaire sur un journaliste de Tintin a été publiée pour la première fois en Belgique. Cette histoire comique n'était initialement apparue que dans d'autres éditions du quotidien du XXe siècle en Belgique. Les aventures de Tintin font partie des plus célèbres et plus populaires bandes dessinées européennes du XXe siècle. Avec l'histoire amusante et unique tirée des aventures d'un jeune journaliste accompagné d'anciens blancs, la bande dessinée a apporté de nouvelles idées et du divertissement à ses lecteurs. Les histoires présentées par l'illustrateur Josh Remy, sous le nom de Samara Hers, s'inspirent beaucoup d'écrits et de photographies de diverses sources. L'un des titres de l'histoire aventure est le vol 714 qui se déroule sur une île en Indonésie. Le 10 janvier 1920, la création de la Société des Nations. La Société des Nations a été créée après la Première Guerre mondiale dans le but de concilier les intérêts des nations et de maintenir la paix dans le monde. La création de cette institution a été lancée par le président des États-Unis, Woodrow Wilson, dans l'accord de paix à Versailles. Mais les États-Unis n'ont pas adhéré à la Société des Nations. 42 pays sont devenus membres lors de la création de la Société des Nations. 23 d'entre eux sont restés membres jusqu'à la dissolution de la Société des Nations en 1945. Le 10 janvier 1966, démonstration d'étudiants avec Tritura. Après le tourment politique de septembre 1965 et les problèmes communistes qui ont frappé l'Indonésie, des milliers d'étudiants ont adhéré à l'Union indonésienne d'action étudiante, a organisé une manifestation massive le 10 janvier 1966 qui a débuté à Jakarta. Les demandes d'action sont connues sous le nom de Tritura, trois demandes de personnes qui contient 1. Dissoudre le Parti communiste indonésien, 2. Réaménagement du cabinet Dwi Korra, et 3. Baisser le prix. Les actions qui sont ensuite étendues à toutes les régions de l'Indonésie ont finalement contraint le président Sukarno à émettre un ordre du 11 mars autorisant pleinement le lieutenant général Suharto à prendre des mesures pour rétablir la situation en Indonésie. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buat ku menangis, buat ku bersedih. Ucapkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik,
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure la première chanson intitulée « Désolé » chantée par Gesa Kenang. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Écoutons maintenant la rubrique « Mon Indonésie ».
El Niño est arrivé, le ministère de l'Environnement et des Forêts commence à anticiper les incendies de forêts de terre. Le ministère de l'Environnement et des Forêts anticipe la possibilité des incendies de forêts et de terre. Des mesures ont été prises depuis le début de l'année après que l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique ait prédit un El Niño modéré de janvier à février 2019. Le directeur général de contrôle du changement climatique, Rwanda Agung Sugardiman, a déclaré dans un communiqué écrit reçu à Jakarta lundi qu'il était nécessaire d'anticiper l'apparition de El Niño dans les régions indonésiennes. El Niño est un phénomène climatique ayant un impact sur l'apparition des températures plus chaudes. À cette fin, le ministère de l'Environnement et des Forêts augmente la préparation de Mangala Agni, qui porte également le nom de Brigade de contrôle des incendies de forêts de terre pour la prévention des incendies. Le directeur de la lutte contre les incendies de forêts et de terre du ministère de l'Environnement et des Forêts, Raffles B. Panjaitan, a déclaré « Mangala Agni était prête à prendre diverses mesures préventives ou éteindre les incendies précocés dans les zones touchées par des incendies. » Raffles, cité par Antara, a indiqué qu'il fait maintenant très chaud et les vents forts, provoquant des incendies de forêt et de terre, comme dans la région de Dumai, la province de Riau. Jusqu'à présent, Mangala Agni continue d'éteindre les incendies dans le village de Mamugo, le district de Tanah Putih, dans la région de Rokan Hilir. Les conditions du sol sous forme de tourbe et les vents forts sont les obstacles aux efforts d'extinction des incendies. Les vents forts font le feu s'agrandissent et se propagent rapidement et ont un impact sur la fumée épaisse qui perturbe d'éteindre les incendies. Raffles a déclaré que Mangala Agni et le parti ont toujours procédé à des pannes de courant en toutes circonstances. Mangala Agni et les partis tels que la Force armée nationale indonésienne, la police nationale et l'agent régional de gestion de catastrophes continueront de mener la prévention des incendies et de forêts et d'éteindre les incendies dans toutes les conditions. En outre, surveillance de points chauds est également en cours de sorte que chaque point chaud surveillé puisse être immédiatement contrôlé sur le terrain pour éviter les incendies de forêt et de terre.
Voice of Indonesia.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di
mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
Musik kita tunjuk la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la deuxième chanson intitulée Courrier sans jambes, chantée par Gak. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel, une rubrique sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter le musée de Géoparc Batur Kintamani est un musée avec le premier concept de Géoparc en Indonésie, précisément situé à Penelokan Kintamani, la régence de Bangli, l'île de Bali. Dans ce musée, les visiteurs peuvent mieux connaître l'histoire et le Géoparc du Mont de Batur. Le musée est construit sur une superficie d'un hectare. Il est le centre d'information de Géoparc, à la fois Géoparc Batur et d'autres géoparcs dans ce pays. Le musée de Géoparc Batur Kintamani possède une collection qui représente les trois piliers de géoparcs, à savoir la biodiversité, la géodiversité et la diversité culturelle. Ce nouveau concept d'un musée en Indonésie qui combine la nature, la culture, la flore et la faune locale en une seule unité. La construction du musée Géoparc Batur a été réalisée après que le Géoparc Dumong Batur a été confirmé par l'UNESCO en tant que le réseau mondial des géoparcs le 20 septembre 2012. Il y a l'unicité dans ce géoparc qui n'est pas trouvée dans d'autres géoparcs, à savoir le Mont Batur possède deux caldeiras. Ce qui est spécial est que dans la caldeira 1 est formée la caldeira 2 et on estime que la caldeira du Mont Batur se forme après deux éruptions majeures. Et dans la caldeira 2, il y a aussi un lac en forme de croissant d'une longueur de 7,5 km et une largeur de 2,5 km, et connu comme le lac de Batur. Le musée de Géoparc Batur possède deux étages. Au premier étage, il y a un hall principal avec une salle de présente la diversité géologique. Dans le hall principal, il y a un diorama du Mont de Batur. Le diorama étant présenté est une miniature du Mont de Batur et le lac de Batur. Au deuxième étage, il y a un espace de biodiversité, la diversité culturelle et l'espace auditorium. Dans l'auditorium, les visiteurs peuvent voir divers films éducatifs sur les volcans et les géoparcs. Au troisième étage, il y a une salle d'observation de l'activité du volcan de Batur. Observer des activités volcaniques peut être une expérience et augmenter les connaissances sur l'activité volcanique. Le musée présente une collection de géodiversité, d'exemples de produits d'éruption volcanique et quelques exemples d'autres volcans dans ce pays. Pour aller au musée Géoparc Batur Kintamani, vous avez besoin d'environ 2 heures. Si vous partez de Kuta, vous pouvez prendre un taxi ou bien louer un véhicule privé. L'horaire de visite au musée du lundi au jeudi, de 8h jusqu'à 16h. Samedi et dimanche, à 8h jusqu'à 14h. Le vendredi et les fêtes nationales sont fermées. Visiter le musée du Géoparc Batur peut être un moyen d'éducation en profitant de l'atmosphère fraîche à la hauteur des montagnes de la région de Kintamani. Vous pouvez également trouver quelques attractions touristiques autour de ce géoparc. La région de Kintamani est connue comme une destination touristique populaire sur l'île de Bali. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie sur le musée Géoparc Batur de Kintamani à Bali. Merci à tous et à bientôt.
Voice of Indonesia.
Hold you, I just wanna kiss you. sekali lagi, I love you.
Tiada yang lain lagi, hatiku telah terkunci.
Cuma kamu, I just wanna hold you. I just wanna kiss you. I just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Hold you, kiss you. I just want.
Chers amis, c'était la troisième chanson intitulée By My Side ou À Mes Côtés, chantée par Maudie Ayunda. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id. Chers amis, pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et pour titre le festival de l'alimentation du bout 2018. Soyez toujours à l'écoute sur www.voinews.id. Le festival de la nourriture Ubud, au plus connu avec Ubud Food Festival, ou UWF, se tiendra à nouveau exactement du 13 au 15 avril prochain. UWF elle-même existe depuis 2015. Ubud Food Festival cette année sera animé par divers événements tels que des séances de discussion, des démonstrations culinaires, des marchés alimentaires, des événements spéciaux, des ateliers, du voyage culinaire, des projections de films et des spectacles musicaux. Janet Deneuve, fondatrice et directrice du festival Ubud Food, a déclaré que le festival culinaire de 3 jours présentera environ 100 conférencières experts dans le domaine culinaire de l'intérieur et de l'étranger. UWF 2018 sera assisté par des chefs, des entrepreneurs de restaurants, des agriculteurs, des entrepreneurs sociaux et des innovateurs. Le thème du festival d'alimentation d'Ubud qui sera soulevé cette année est Génération de l'innovation. Selon Janet Deneuve, ce thème est inspiré par les jeunes Indonésiens qui connaissent bien la technologie. Les visiteurs du festival peuvent découvrir les diverses innovations et les idées de conservation associées à l'industrie alimentaire indonésienne. Plus tard, non seulement limité à l'innovation autour de la nourriture elle-même, mais aussi des choses liées à la nourriture, comme l'emballage des produits à des applications sur le monde culinaire. Janet a dit, UWF célébrera la jeune génération d'Indonésie qui apporte maintenant beaucoup d'innovations dans l'industrie culinaire de l'Indonésie. Cependant, sans oublier ceux qui ont été pionniers et qui ont ouvert la voie à ces générations il y a longtemps. Ubud Food Festival en 2008 présentera 100 chefs célèbres et experts culinaires de l'Indonésie et de l'étranger. L'un des chefs experts culinaires de l'Indonésie est Siska Switomo. ce pionnier événement cuisine qui a été confirmé à être présent pour la troisième fois et cuisineront des plats cuisinés maison typiques de l'Indonésie. En outre, il y a beaucoup d'autres noms nationaux de chefs qui seront présents à ce OWF comme chef Rindrin Marinka qui est présent souvent sur le spectacle à la télévision cuisine locale et internationale. Ensuite, il y a Andrian Ishak, un célèbre chef grâce à sa capacité à servir le menu moléculaire de la gastronomie. Pendant ce temps, sur la scène internationale, OWF invitera également des chefs qui ont remporté Michelin Star à partir Rishi Nalendra, le premier chef de Sri Lanka qui a reçu un prix de Michelin pour son restaurant, Chick by Joel à Singapour. Deux autres chefs qui ont également remporté des prix de Michelin pour leur restaurant sont Sam Asbiet de White Grass à Singapour et Jun Lee de Soigne à Séoul, en Corée du Sud. Ils ont tous certainement présenteront leurs plats aux visiteurs d'OWF 2018. Serviteurs, selon Janet Denif, il y a une nouvelle chose à l'OWF 2018, à savoir le café. Il y aura un laboratoire de café. Donc, plus tard, il y aura des producteurs de café de Bali et de Sumatra. Il y a aussi une démonstration de café de torréfaction. En outre, cette année, les stands de nourriture indonésienne seront plus nombreux que les années précédentes. Serviteurs, c'est à l'Indonésie encore pour ce soir avec le thème du Festival de l'alimentation d'Ubud 2018. Nous nous retrouverons dans la prochaine édition d'Indonésie en couleur pour ce soir avec d'autres thèmes intéressants. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Ooh.
Chers amis, c'était la chanson intitulée « Ma petite amie » chantée par Elo. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Chers amis, Betare Sonata est très connu aux années 1990. Et vous savez, Betare Sonata est né à Bandung, Java West, au 14 décembre 1962. Outre qu'une chanteuse, elle était aussi une actrice du film indonésien. Betare Sonata est célébrée aux années 90 avec sa chanson hits Le cœur brise, ou hati yang terluka. Grâce à cette chanson, elle a gagné un prix de la chassette d'or de ADX pour l'album Le cœur brisé, atau hati yang terluka. Betare Sonata a commencé sa carrière comme chanteuse depuis les années 1980. Et elle a sorti son premier album intitulé Tu es créé pour moi, Kau tercipta untukku. En 1981, avec une chanson par avec le même titre, à savoir Tu es créé pour moi, Kau tercipta untukku. Cette chanson qui a popularisé son nom raconte quelqu'un qui a le sentiment que lui et son idole de cœur sont deux personnes créées par Dieu pour rester ensemble jusqu'à la fin de sa vie. Chers auditeurs, voici dans sa chanson intitulée « Tu es créé pour moi, Kau tercipta untukku ». Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs et auditeurs dans le monde entier, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voynews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.